C'est parti pour Press Start.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Press Start, votre rendez-vous sur les jeux vidéo sur Radio Campus Tour 99.5 FM. Philippe au micro et je ne suis pas tout seul, nous avons la Dream Team, les meilleurs, les plus beaux. Il y a Tony.
Bonjour.
Et Charles.
Bonjour.
Ah d'accord, t'as essayé de la jouer comme ça tout de suite? Ok, attends. Oui. Attends, je recommence.
Vas-y, recommence. Vas-y, recommence, je t'en prie.
Bonjour. Bonjour.
Alors, dans cette émission, il y aura, bah, comme d'habitude, l'update, hein, les dernières infos du monde vidéoludique, et je crois des infos de qualité. Hein,
ah ouais, là c'est...
On s'est fait plaisir. Là.
On s'est fait plaisir. Là, vraiment, c'est du journalisme de haut vol.
Il y aura les aventuriers de la Playhistoire, c'est la présentation du jeu Metroid Dread.
Oui, on va faire ça en duo avec Charles.
Yes. En duo, ouais. Première fois un crossover ouais. Sur un test.
C'est pas tous les jours que ça arrive.
Deux sons, deux ambiances. Il y aura également le One Up qui sera une présentation de Infogrames. Et oui, l'ancien éditeur français. Et vous allez voir qu'il y a des infos qui vraiment, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Il y aura la sélection musicale et il y aura évidemment un quiz à la fin. Et je tiens à préciser, la semaine dernière, on a connu une émission historique puisque Charles et Tony, ici présents, ont scoré le score incroyable de 0 points. Mais ce qui a provoqué...
La guillotine, on peut faire autrement.
Donc, allez, c'est parti, on commence avec l'update.
C'est l'update.
Et un update, on va commencer. Qui c'est qui veut se lancer?
Allez-y, je vous en prie.
C'est trop d'honneur. Allez, je commence par du grand journalisme. Alors, depuis en gros quelques années, on commence à voir l'arrivée dans le milieu vidéoludique et geek plus généralement, ou dire pop culture plutôt, de spéculations de plus en plus importantes et de plus en plus aberrantes sur le jeu vidéo. Je vous rappelle que très récemment, il y a des jeux comme Mario 64 qui sont vendus à des centaines de milliers de dollars. Enfin, ouais. Vous savez, Super Mario 64, un jeu qui a été vendu en millions d'exemplaires, hein, donc concrètement, bon. Et donc, en fait, on arrive uniquement à avoir un peu ce genre de palier où chaque fois, ça dépasse un peu plus l'entendement. On se dit que ça va s'arrêter, mais non, il y a toujours des gogos pour acheter. Et donc, s'il y a des acheteurs, eh ben, il y aura toujours des vendeurs. Hein, s'il y a de la demande, il y aura de l'offre, hein, c'est la règle. Et écoute, je suis tombé sur un cas qui exprime parfaitement toute la bêtise de ce truc, enfin la bêtise, mon ressenti. Vous savez qu'actuellement, il y a une hype sur les cartes Pokémon, notamment les vieilles cartes Pokémon.
Celle-là, je l'ai vue, là, cette news, et ça m'a fait hurler de rire, j'ai même failli la faire.
Moi, je vais la faire, et je vais la faire parce que ça me permet de parler de deux choses. Alors la première, je vais vous expliquer. Il se trouve qu'il y a un fait divers en France, un mec qui tente d'échanger un appartement avec une carte Pokémon. Carte de Pokémon Dracaufeu de 4 du tirage 99-2000, estimée. Alors, il y a eu des ventes en février dernier qui allaient jusqu'à 410 000 euros.
Ouais, tu peux acheter un appart avec ça.
Hein. Le mien n'a pas coûté une carte Pokémon comme ça, là, je vous le dis. Hein. Et du coup, le mec est en train d'essayer de voir pour prendre un appartement avec cette foutue carte. Et on en est à ce point, donc, de potentiellement avoir un bien immobilier. Parce que l'immobilier, c'est vraiment le marché, enfin, c'est un marché spéculatif, mais plutôt dans le bon sens. Enfin, dans le bon sens, ça monte progressivement, mais ça descendra jamais violemment. Et du coup, là, on est un mec qui est en train de se dire: oh putain, je suis au creux de la vague parce qu'un jour, ça va se casser la gueule. C'est le moment d'acheter un appart avec une carte Pokémon Dracaufeu. Sérieusement. Et du coup, deux choses. Alors la première, c'est que ça, cette sorte de bulle spéculative, il va y avoir un paquet de perdants, je vous le dis. Parce que quand elle va exploser...
Quand ça va péter, ça
va... Alors là, ça va chialer. Ça va chialer sec. Ouais. Et il faut que ça pète parce que, très clairement, quand je vois là, par exemple, j'étais sur eBay aujourd'hui pour regarder les éditions spéciales de Metroid Dread, qui étaient vendues à 90 euros. Pas facile d'accès, mais 90 balles. Ouais. Que tu trouves, vente réussie, à 170 euros sans problème sur eBay. Tu fais, mais tout est cool. Hein. Ouais. Moi, si j'avais su, j'aurais gardé ma commande de chez Amazon Espagne, pour la revendre après sur eBay. Hein. Si j'avais su, je l'aurais fait, hein, vraiment.
Mais le truc, c'est ça, c'est qu'il y a souvent des gens qui achètent des trucs, ils l'achètent en deux exemplaires, ils en revendent un, mais ils savent qu'ils vont se refaire, la thune sur les deux.
Clairement, quoi. Et le pire, c'est que ça, en fait, Metroid, c'était une édition qui était chiante à choper, vraiment. Fallait se lever tôt pour l'avoir, parce que t'avais des petits stockages qui arrivaient par-ci, par-là. Bon courage, hein, vraiment. Et donc, du coup, en fait, le truc, c'est qu'après, le marché pullule de versions neuves de mecs qui n'en ont rien à foutre. Hein. Vraiment, ils en ont rien à foutre de ça. Et donc, du coup, à la fin, en gros, c'était un jeu de spéculation plus qu'un jeu de passionné. Alors, c'est le propre de toutes les cultures qui deviennent mainstream, entre guillemets, hein, c'est comme ça, mais voilà. Et donc, ça me permet aussi d'aborder un deuxième point, c'est que cette news, vous savez où je l'ai lue ? Sur un site de jeux vidéo.
Ouais,
c'est surprenant. Un certain. Alors, normalement, faut pas citer de marque, mais là, je vais le citer parce que c'est quand même important.
Bah, c'est une marque.
Un certain JV.com, puisqu'ils ils sont renommés, on n'appelle plus ça jeuxvideo.com. Ouais. Et en fait, je crois que je sais pourquoi on dit plus jeuxvideo.com, mais JV.com, c'est parce qu'ils font plus de jeux vidéo. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu des news jeux vidéo sur JV.com. Il y en a pas beaucoup.
Il y en a pas beaucoup. Par contre, ils ont de super annonces pour des réductions sur du matos ou.
Vous parlez de Squid Games, tu vois. Squid Games, qui est un jeu. Non, c'est une série.
Ils font beaucoup sur les séries télé.
Donc du coup, tout ce que ça m'inspire, mis à part du dégoût, c'est de me dire que au revoir, capitaine jeuxvideo.com, tu as gentiment coulé. Le problème, c'est que maintenant tu ne coules pas assez vite. Et là, tout à coup, je me dis, je regrette une chose, c'est que l'iceberg n'est pas plus gros.
Ouais.
Ouh, joli. Ouais, très
l'époque belle. De Frank et de Captain Obvious, c'est tellement loin maintenant.
Bah, même les années 2010 avec leurs chroniqueurs qui étaient vraiment des bons chroniqueurs.
C'était cool.
Il y a 10 ans, il y avait du travail.
Ouais.
Il y a 10 ans. Voilà.
Charles, est-ce que tu as une news ?
Ouais. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé. Il y a Nickelodeon qui sort un jeu.
Oui.
Vous savez, Nickelodeon, c'est producteur
Bob l'éponge et tout ça.
Bob l'éponge,
Avatar,
les
des animés,
petits
hein,
bébés là aussi, là.
Les
Razmoquettes, etc.
Oui, c'est pas tout jeune, ça va rentrer.
Non, c'est vrai. Et qui de temps en temps sort un jeu d'après une de leurs licences, hein, parce que pourquoi pas, hein, ça fait du fric les jeux, donc bon.
Et puis ils sont pas si mauvais d'ailleurs.
Non, en plus, les jeux Bob l'éponge sont pas mal. Hein,
je pensais à Bob l'éponge.
Et donc là ils sortent Nickelodeon All Star Brawl, qui est un jeu de, sont une sorte de Smash Bros.
Ouais, c'est un Smash Bros. Brawl, mais voilà, avec des personnages de Nickelodeon.
Genre, tu sais, je peux prendre ta copie. Ouais, mais tu fais attention, tu copies pas trop. Ouais, t'inquiète.
D'accord. aucun risque. Et ils ont décidé, là, pour fêter le lancement de leur jeu, un partenariat avec Microsoft et de sortir deux Xbox Series X Collector à l'effigie, une de Bob l'éponge, qui est absolument magnifique.
je sais pas
si j'assumerais complètement d'avoir ça dans mon salon.
Je suis fan de Bob l'éponge,
je l'adore. Et une deuxième, l'effigie de Leonardo DiCaprio, Leonardo des Tortues Ninja. Et franchement, avec la manette associée, hein, quand même. Donc, elles sont pas à l'achat. Par contre, il faut les gagner.
C'est vrai qu'elle est magnifique, la Xbox version Bob l'éponge.
Elle est magnifique. Elle est magnifique, non, je ne dis pas le contraire.
Ah, moi, j'assume totalement. Hein.
Ouais. Et j'ai un ukulélé Bob l'éponge, genre, je veux dire.
Xbox, ouais, tu vois.
Mais elle est pas à la vente, hein, il faut la gagner. Donc pour cela, avant le 25 octobre à 5h du matin heure française, il suffit de liker, enfin de suivre le compte Twitter d'Xbox. Voilà. Et peut-être
de gagner
sélectionné parmi les millions de connards qu'on...
Ça va, bonne proportion quoi.
Chance sur 16, t'as plus de chance que de gagner au loto, c'est pas mal.
Et je sais pas si bon, après on pourra les retrouver sur eBay
à 5000 euros,
c'est ça, voilà, au prix d'un appartement. J'échange une Xbox,
tu pourras avoir un dixième d'une carte braque au feu.
le mec donc, sur le bon coin, mais j'échange un appartement.
Le prototype de la Nintendo PlayStation.
Oui.
En fait, le mec, il l'a gardé longtemps, puis après, il l'a mis sur eBay, hein, en vente. Hein.
Ouais.
Il avait tellement de pognon à faire, c'était un prototype unique.
Bah oui. Donc, il pouvait pas s'en servir. Pas. Alors, bon.
Oui. En plus, oui, elle était morte.
C'est ça, ouais.
Bon, merci Charles. Moi, ma news, c'est une news que je pense qu'il va rentrer dans les annales des grandes news du jeu vidéo, hein, aussi. On sait que Konami a changé de nom, hein, RIP Pro Evolution Soccer et bonjour à eFootball. Et ben Electronic Arts aussi, ils ont envie de faire pareil parce qu'ils se sont rendus compte au bout de 27 ans, c'est ce qu'on a vu calculer hors antenne.
94 le premier.
94, ouais, il me semble que c'était le premier.
21,
ouais.
Donc 27.
Ils se sont rendus compte que, en fait, FIFA, avec l'année à côté, ça fait un peu naze à force. Et donc, ils vont changer de nom. Enfin, c'est pas encore officiel, mais on commence à voir. Ils ont commencé à mettre des marques déposées, des choses comme ça. Et donc, ça pourrait s'appeler EA Sport FC. Ce qui est un nom complètement pourri. Voilà, c'est comme si tu. Je sais pas, Konami avait décidé. Oh, j'ai appelé mon truc Sporting Club. Ça vaut vachement le coup. Et donc, FIFA, bah, il garde toujours la licence. Hein, eSport, faut quand même pas déconner. C'est quand même 300 partenaires individuels qui sont sous contrat avec. Rien que pour FIFA, quand tu dis. Avec EA. Ah. C'est quand même un sacré truc. Ils ont 30 ligues différentes où ils ont leurs accès, 700 clubs, 17 000 athlètes, une centaine de stades, donc c'est quand même un gros bousin, et ils veulent changer le nom mythique de FIFA pour de maintenant devenir EA Sports FC, donc on ne sait pas si ce sera vraiment ça, mais d'après les rumeurs, ça commence à tourner vraiment dans ce sens-là, donc peut-être que l'année prochaine, on aura également droit à EA Sport Football Américain, ou à EA Sport Golf, ou à EA Sport ce que tu veux, parce que de toute façon, je pense qu'ils vont avoir beaucoup d'imagination là-dessus. Donc voilà, si l'année prochaine, vous voyez EA Sport FC, et oh, il n'y a pas le nouveau FIFA, non, c'est le nouveau FIFA.
Et, ouais, et rappelons tout de même hein, que EA... Normalement, un département marketing.
Oui.
Cette question, rappelez-vous cette information qui est importante. Apparemment, il y a un département marketing, donc, question de cas de figure. Soit le marketing, c'est du bullshit depuis très très longtemps
depuis et 93.
On va finir par se rendre compte. Soit ils sont pas payés.
Ouais. Ils sont toujours au chômage partiel.
Alors, on a parié parce qu'on en discutait en antenne justement avec Philippe sur les jaquettes de FIFA qui sont...
un tantinet simple, on va dire.
Celle-là, la nouvelle, ça va. Je veux dire, bon, c'est Mbappé qui est montré. Je fais bon, ok, c'est... Ils ouais, sont pas voulu, attends, une photo de Mbappé.
Okay, moi, je te fais la même avec Photoshop.
Avec un appareil photo et Mbappé. Basiquement, et puis après, photo filtre, ils sont à changer les couleurs. Mais par contre, avant, ils avaient fait un truc dégueulasse pour la version
avec les taches d'encre.
Ouais, les taches d'encre avec une sorte de truc de carré qui était un peu foutu partout, une sorte de mosaïque dégueulasse. Il y a un graphiste derrière quand même. Et en plus, il n'y a pas qu'un graphiste.
Il n'y a pas qu'un graphiste, c'est une arme.
En fait, le mec, a priori, il tournait avec un papier et un stylo et de l'encre sur une plume, et qu'en fait, il avait un taux d'encre précis, et il n'avait pas plus, et qu'il y avait une tâche, mais qu'il n'avait qu'un seul papier, ouais. Et qu'il n'y avait vraiment pas une thune pour le stagiaire, donc du coup, artistique.
Merci, messieurs, on va faire une première pause musicale, on va écouter Kavinsky et Road Game. On est de retour dans Press Start sur Radio Campus Tour 99.5 FM. C'est l'heure de partir à l'aventure avec Charles et Tony. Voici les aventuriers de la Playhistoire.
Les aventuriers de la Playhistoire.
Donc, messieurs, vous allez nous amener dans le monde merveilleux de Metroid Prime. Metroid Dread.
Bah, Metroid déjà, tout court.
Metroid Prime, tout court, ouais.
Tu veux commencer ou je commence ?
Vas-y, je t'en prie, présente le jeu.
Alors, Metroid Dread sorti le 8 octobre 2021 sur Switch uniquement, même si maintenant il y en a déjà des versions qui existent pour émulateurs sur PC.
Ça alors ?
Développé par Mercury Steam, qui est un studio espagnol et l'aide de Nintendo, hein, du département planning Nintendo à Kyoto. Mercury Steam, c'est pas des débutants dans mes souvenirs, c'est des mecs qui ont repris aussi Castlevania sur la génération PS360. Ouais. C'est pas non plus des débutants, hein, ils ont quand même une petite expérience. Et Metroid Dread, c'est un jeu qui sort des enfers, parce que alors il sort des enfers et je trouve que ça se ressent un peu dans le jeu. On en reparlera, mais en fait c'est typiquement le genre de jeu, tu sens qu'il a été construit et envisagé il y a 15 ans, il y a 15-20 ans, parce qu'en fait à l'origine c'était un jeu qui était censé être sortir sur DS.
D'accord.
Et qui est jamais sorti sur DS, qui est devenu un dossier, enfin une sorte de projet d'archivé.
Un peu l'arlésienne de Nintendo, quoi, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, ouais. Mais une arlésienne, en fait, qu'on a complètement oublié. Et il faut savoir que Metroid, c'est une série de jeux qui a beaucoup de mal à sortir, puisque Metroid Prime 4, c'est pas pour tout de suite. Ils ont changé de studio. Pour une raison qui m'échappe, les Prime, ils ont été faits par Retro Studio, qui est un studio américain. Qui ont eu un succès énorme. Enfin, je ne comprends pas d'ailleurs que Nintendo n'ait pas racheté le studio, même, tout simplement. Et ils l'ont déjà fait avec Rare, et je crois pas qu'ils ratent encore là, mais bref. Et du coup, ils ont filé la licence à un autre studio pour Metroid Prime 4, mm-hmm. Et puis ils se sont rendu compte que ça marchait pas. Et donc ils l'ont filé à Retro. Enfin, tu fais, mais pourquoi ? Bref. Donc, disons que c'est pas toujours facile pour Nintendo et ses licences quand il s'agit de les passer aux autres. Et là, ils ont tenté donc de le faire avec Mercury Steam, qui a repris le projet. Et qu'il a terminé, après un développement qui n'avait pas l'air facile, pour aboutir donc à un Metroid à l'ancienne, donc un Metroid basé sur les premiers Metroid et Super Metroid, donc un scroll en 2,5D, où en fait, qui appartient à ce qu'on appelle les Metroidvania, donc le mix Metroid et Castlevania, donc un environnement où en fait c'est une immense carte où tout est relié, et vous récupérez des nouvelles compétences qui vous permettent d'aller dans de nouvelles salles et d'ouvrir un peu plus votre carte, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Et voilà, et de mon côté j'ai fini le jeu cet après-midi.
Ouais, je l'ai pas fini moi encore.
Ouais. Et il y a beaucoup de choses à dire malgré tout sur ce Metroid. Il y a beaucoup de choses en bien, il y a quelques mauvaises choses à mes yeux, et je pense que ça va être intéressant.
Juste avant de vraiment plonger dans le test, vous l'avez fini, donc toi tu l'as fini en combien de temps, Tony?
Alors, d'après le timer, il y a écrit 8h30. Je pense qu'il prend pas en compte les game over.
Ouais.
Parce que je pense qu'il y a plus que 8h30 réellement. Parce qu'on va en reparler, Metroid Dread, contrairement à ses aînés, est bien plus dur. Et il a été pensé pour être bien plus méchant que les autres.
Mmh. Donc, je n'ai pas fini encore, mais j'en suis à quelques heures. Moi, je prends mon temps pour faire les jeux, et je sais que je vais mettre bien plus de 8 heures, parce que...
Histoire de bien vraiment
tout chercher. Je suis fessé, hein, quand même, là.
Ouais, mais j'ai pas envie de t'aider, de toute façon. Enfin,
Non, c'est clair.
Je vous demande ça parce que l'info vient de tomber il y a à peu près 2 heures maintenant. Le premier record du monde speedrun de Metroid Dread est sorti, ça y est, c'est fait, en moins de 100 minutes.
Alors, j'ai vu qu'il y avait une séquence break qui permet de faire sauter un boss complet, récupérer des techniques que tu n'es pas censé avoir à ce moment-là. Enfin, genre,
Ah oui, d'accord. Okay.
Donc voilà, avis aux auditeurs et auditrices. Hein, si vous avez Metroid Dread et que vous voulez rentrer dans le livre des records, bah voilà, c'est moins de 100 minutes.
Mais attends, je comprends. Hein, Super Metroid, c'était vraiment le jeu du speedrun qui a vraiment montré que le speedrun, c'est une vraie compétition, qui est un truc. Hein.
Et pour vraiment corser le truc, il ne faut pas mourir une seule fois.
Ah ouais.
Alors là, par contre, c'est violent. Là.
Est-ce que tu veux raconter le synopsis ? Je te laisse le faire.
Alors, le synopsis, attends. ça se passe après, c'est la suite directe de Metroid Fusion. Enfin, ça se passe
Bah, c'est aussi la suite de Metroid Returns en plus, ouais. Au passage.
On le voit tant après, les parasites X
ouais.
semblent donc avoir disparu, et puis et finalement, bah, ils n'ont pas vraiment complètement disparu, hein, parce que sinon ça serait pas drôle et il n'y aurait pas d'autres jeux. Donc on se retrouve voilà, à cause d'une... je sais plus, il y a un message qui arrive de ZDR,
ouais,
la planète ZDR, et qui est une planète sur laquelle on a envoyé ce qu'on appelle donc des EMI, E2MI, ouais. Des explorateurs mobiles multiformes interplanétaires. C'est des groupes en fait de robots qui sont là pour travailler en fait. Hein,
et qui sont un peu chambés hein, quand même.
Voilà, et on s'est dit bon, on va envoyer des robots super loin sur une planète, on n'a pas envie de les réparer ou d'envoyer des mecs pour les réparer, donc on va les faire super solides. Voire quasiment invincible.
C'était une bonne idée sur le papier.
Voilà.
Beaucoup moins
et
dans
puis,
les faits.
Et puis comme ça, voilà, ils se démerdent, ils minent, et puis voilà. Sauf que bon, évidemment, ça se passe pas comme ça. C'est le bordel, les parasites X reviennent et piratent d'une certaine manière hein, les émis qui du coup deviennent très cons et méchants.
Alors ouais, mais alors comme, pas si cons que ça,
pas si cons que ça, voilà, non, ils sont non, effectivement très intelligents mais très méchants.
Ah, ça va.
Et comme on les a fait super forts, super blindés et super invincibles, bah forcément quand nous on se pointe là-bas pour essayer de voir ce qui se passe,
passe hein,
tout simplement,
passe.
Parce qu'on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait on sait pas trop encore à ce moment-là qu'on arrive sur la planète que ils sont devenus badass et pas cool, les émis.
On sait juste qu'on a perdu le contact avec eux.
On a perdu le contact avec eux, donc voilà, on envoie Samus Aran, donc notre personnage, ouais. Notre héros, notre héroïne, aller voir ce qui se passe. Et pourquoi elle ? C'est parce qu'elle est la seule qui peut
résister en fait,
aux parasites
oui.
X
ouais, en fait,
et pouvoir les tuer.
En gros, l'idée, c'est que donc dans la continuité de Metroid Returns, les X sont abordés à ce moment-là. Et en gros, le fait qu'elle, elle est dans son ADN, l'ADN Metroid, fait qu'elle est naturellement protégée des X. Et les X, en fait, c'est un sorte de parasite qui te chope et qui t'amplifie ta force, mais qui te fait perdre toute conscience. Hein, après, ouais. t'es un pantin, ouais. quoi.
Ouais. Et puis, c'est la dernière des Metroid aussi.
Au passage, oui.
Au passage, il y en avait d'autres avant. C'est un peu comme si James Bond était le dernier James Bond. Le dernier 00.
Ouais. Ben là, ouais, oui,
en gros, c'est un peu Highlander, quoi.
C'est ça, c'est, ouais,
c'est un peu ça.
Comme ça.
T'as un côté un peu Christophe Lambert.
Mais il n'y a pas Sean Connery.
Et là, ouais. Justement, là, je vois là, le monde, nos collègues du monde, qui ont écrit un article et ils disent que c'est un jeu culte à l'ADN proche des films Alien.
Alors,
peut y avoir un côté un peu Alien. Vraiment poussé trop loin la comparaison.
C'est pas débile parce que alors les premiers Metroid en fait ont été conçus en fait, tout se passe dans un intérieur. Hein, on est d'ailleurs la quête principale de Dread en fait, c'est principalement de revenir à la surface pour rejoindre son vaisseau. C'est ça son objectif
ça, ouais.
en fait hein, du jeu.
Vivant.
Il y a un morceau de toi qui arrive, c'est beaucoup moins intéressant. Et en fait, donc tout se passe en intérieur. Alors au début, ça commence plutôt dans des cavernes, des collines, mais très vite, on arrive aussi dans des labos et tout.
Ouais.
Et on n'est pas dans une noirceur à la Alien, ouais. mais tu sens que les mecs qui étaient là, ils se sont fait un peu plaisir. Il y a des expérimentations par-ci par-là, sachant qu'en fait, on se retrouve dans la mythologie de Metroid. Hein, donc t'as les Chozons qui sont une sorte de peuple où Samus en fait est. Une sorte de descendante spirituelle, entre guillemets, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà,
ouais.
Qui était un peu extrêmement
élus.
Avancé intellectuellement.
C'est un peu les élus, entre guillemets. Quoi.
Bah voilà, c'est en gros, c'est un peuple ultra avancé, ouais. et qui ont créé les Metroid, et puis forcément, ça leur a échappé. Puis ils se sont dit, bah on a fait une connerie une fois, on peut bien le faire une deuxième fois, donc ils ont fait les X, et ça leur a encore échappé, incroyable, quoi. Donc.
Faudrait virer le patron. Hein.
Bah disons qu'ils l'ont fait, puisqu'ils sont considérés comme éteints.
Oui.
Donc ils l'ont plus ou moins réussi.
Plus
hein,
ou moins.
Voilà. Ils ont essayé, enfin plus ou moins parce que dans les faits il en reste quelques-uns qui vont quand même te casser les couilles. Hein. donc Super Metroid qui alors dans les critiques que j'avais lues, moi je l'avais lu que le jeu est pas très très long. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec la critique de la durée de vie parce que en vieillissant j'ai peut-être moins de temps pour jouer et honnêtement moi je trouve pas ça aberrant la durée de vie. Oui, je l'ai fini assez vite, c'est vrai, mais en même temps, j'ai joué sur le dimanche.
Ça durait 20 heures, hein, je crois, parce que
ouais, pareil.
Circuler dans les petites pièces, des couloirs pendant 20 heures, il y a un moment.
Alors, Il est pas si labyrinthique, par contre. Je trouve que assez étonnamment, il est pas mal foutu en termes de game design. Il y a de bonnes idées de façon à éviter que tu te perdes trop et que tu ailles un peu trop n'importe où. Parce qu'en fait, l'environnement est immense. Mais c'est vraiment immense. Ouais. C'est assez fou à quel point tu te retrouves. En gros, le jeu est construit avec environ 7 zones. Il y en a une 8e en réalité, mais 7 zones différentes. Mm-hmm. Chacune qui a son identité graphique, mais chacune de ces zones, en fait, elle a, je sais pas, 150 salles, quoi. Et donc, tout est relié par un système de vaisseaux et de téléporteurs. C'est immense.
Voilà, et puis tu es obligé de revenir parfois en arrière parce qu'il y a des passages que tu peux pas accéder quand tu n'as pas encore certaines habilités.
Voilà.
Il y a vraiment ce côté un peu old school, quoi. Reviens sur tes pas, va.
Voilà.
Un peu la MGS1 où tu arrives à un moment, il faut que tu reviennes en arrière pour chercher un truc pour repartir. Oui.
C'est plus malin parce qu'en fait, on ne te fait pas faire tout le tour. C'est juste qu'en fait, la compétence que tu avais te permet d'accéder à un téléporteur qui va t'emmener beaucoup plus proche que là où il y a le truc que tu pouvais pas faire avant. Ouais. Et comme ça, en fait, tu reviens beaucoup plus vite sur tes pas.
Ouais. Tu me diras après, c'était de la PS1, mais il y avait les limitations de la console qui faisaient que, en fait, t'arrives à tel endroit, tu dois revenir en arrière, c'était aussi pour
allonger
la durée de vie, quoi.
Là, c'est bien mieux foutu à ce niveau-là.
Ouais, t'es jamais vraiment coincé, en fait. C'est drôle parce que j'ai lu un article sur des mecs qui recommençaient le jeu parfois parce qu'ils étaient coincés et ils pensaient avoir loupé un truc et que c'était définitif.
En fait.
Donc, moi j'aurais les boules de recommencer le jeu.
Grave, grave.
T'es là, mais non, en fait, tire dans les murs. Si déjà, parfois.
Alors, cela dit, le jeu te donne, je sais pas où trop d'entendre, mais le jeu te donne à un moment une compétence qui te permet justement de savoir, de scanner l'environnement pour savoir où sont les caisses et les trucs que tu peux péter. Je peux te dire que c'est bien utile.
Je peux pas encore me mettre en boule là, tu vois. Je suis au troisième niveau.
Alors, ça, on va pouvoir en parler.
On va en parler, ouais.
Ah putain. Donc en gros le jeu est construit sur une idée de gameplay. Alors d'habitude les Metroid, donc c'est construit comme ça, hein. Vous devez aller d'un point A à un point B à un point D, Z plutôt on va dire, et entre temps vous allez faire des tours et des allers-retours avec les nouvelles compétences que vous allez récupérer en ayant tué un boss ou en ayant récupéré un truc par-ci par-là. Et en fait le jeu fait comme tous les Metroid, c'est qu'en fait quand tu commences le jeu forcément il se passe un truc et tu finis walpé, t'as plus du tout toutes tes compétences. Alors ça, c'est une idée de gameplay, forcément, parce que si on fait commencer Samus avec toutes ses capacités, en fait, t'as pas cet effet
tout le monde.
Voilà. déjà, tu défonces absolument tout le monde. Mais il le faisait déjà en Prime, je vous rappelle, et en fait, basiquement, tu prenais explosion, ça la faisait voler contre un mur, hop, tu perds du tout. C'est fini. Tu peux tirer avec ton blaster et c'est tout. Et là, ils font pareil. Et alors, effectivement, il y a un truc qui m'a agacé très très vite. Alors, c'est ultra frustrant. En fait, dans l'environnement, dans l'histoire de Metroid, il y a un pouvoir qui marquait les gens, c'est qu'en fait, donc, Samus a une armure. Cette armure lui permet de se transformer en boule, la boule morphing, ok ? Et donc cette boule te permet d'entrer dans des espaces beaucoup plus petits. Et avec cette boule, tu peux également lâcher des bombes pour détruire des petits blocs. Le jeu va te donner l'accès à la boule morphing plus loin que ça. Sauf que tu vas tomber sur plein d'endroits où en fait t'as un espace juste pour entrer en boule. Et c'est super frustrant.
Moi,
ça me faisait péter un plomb, quoi. Et quand je l'ai enfin récupéré, la première chose que j'ai faite, putain, enfin, quoi ! J'en pouvais plus, quoi. Et encore, le jeu en plus il fait le salaud parce qu'il te file la boule morphing, mais pas encore les bombes.
Ah oui,
les bombes c'est après.
Non, parce que moi en plus je me souviens, il y a des moments où t'es là, il y a des moments où, à un moment où je me suis vraiment trouvé coincé, je savais pas du tout où aller. Puis je regarde la carte, je suis ah tiens, je suis pas allé à tel endroit. Alors je retrace, je réussis à trouver le chemin pour retrouver cet endroit. Pour me faire que c'est un passage qui il faut être en boule pour passer. Je suis ah putain, j'aurais dû regarder la taille du truc sur le plan parce que tu le vois en plus, mais j'ai pas fait gaffe.
Alors là pour le coup, la carte vous allez l'utiliser dans le jeu parce que vraiment elle est super importante et elle est bien foutue. Par contre, elle est claire, elle t'explique bien quand il y a un bloc que tu peux pas faire. Il y a écrit 3 points d'interrogation, ça dit ça sert à rien, on n'y va pas parce que clairement tu t'as pas les outils pour outrepasser. Bah ouais.
Oh, c'est bien ça, ça t'a envie de faire le voyage pour Crédal, quoi.
Et l'idée de gameplay du jeu, comme Dredd le sous-entend, c'est que en fait t'as les EMI. Les EMI. Et en fait, il se trouve que dans le jeu, dans chaque zone, tu as une sous-zone exprès qui est d'ailleurs définie par un sorte de porte un peu spéciale. En fait, c'est des sortes de portes que tu entres un peu comme si tu te téléportais dans une zone un peu différente.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est une sorte de.
Et de portail en fait à ce niveau-là. Et en fait, dedans, tu as les EMI qui sont des robots qui traquent. Donc, le mécanisme, c'est souvent au début, tu as une phase, lorsque tu entres pour la première fois dans la salle, au début, tu peux te balader un peu dedans, puis après, tu vas avoir une cinématique d'exposition de l'EMI en question, de son pouvoir. Parce que chaque EMI a son propre pouvoir, sa propre spécialité. Au début, ils sont gentiment casse-couilles, à la fin, ils deviennent Franchement chiant, putain. Et en gros, ils sont indestructibles. Donc en gros, c'est un jeu du chat et de la souris.
Ouais.
Où la seule chose que tu peux faire, si, parce que si te chope, tu as un, donc t'as une sorte de, la caméra se fixe sur le ennemi en question. T'es vraiment juste à côté. Mmh. Et t'as un petit timing qui permet que si jamais t'appuies sur la touche de mêlée à ce moment-là, tu vas réussir à le frapper correctement et le stun pendant quelques secondes de façon à passer en dessous, ouais, et de pouvoir te casser. Bon, mais si jamais tu rates ton coup, c'est game over instantané. Voilà, on arrête, c'est fini, merci, au revoir.
Et c'est chaud, hein, timing. Hein.
Alors, j'ai toujours pas compris. Bon, franchement, j'y arrive parfois.
Moi, j'ai réussi deux fois.
Ah, j'ai... Voilà,
je sais jamais
ça, mais...
comment j'ai réussi.
Oui, je sais pas quel est le truc, en fait. Parce que normalement, le jeu te fait une sorte de clignotement pour dire c'est là.
Ouais.
Et là, pour les ennemis, j'ai jamais trouvé, en fait. Donc, je sais pas. Alors, parfois, ça passe et parfois, ça passe pas.
Ah, oui, d'accord. C'est un peu à la. Pour vraiment, alors là, c'est old school, mais un peu à la Dragon's Lair, quoi.
Alors.
Les QTE, c'est vraiment. Il faut que tu le fasses au bon moment.
Non, le jeu est assez permissif en réalité. Enfin, sauf pour les ennemis, mais c'est volontaire. Parce que sinon, pour les QTE, il est plutôt permissif. Enfin, genre, en gros,
limite en ralenti, pour bien.
C'est ok. Ouais. Enfin, voilà, pour les monstres, les mobs standards, c'est voilà, à ce niveau-là. Une fois que tu as pris le coup de main, c'est assez facile. Et en fait, pour les détruire, il n'y a qu'une seule méthode. C'est qu'en fait, il faut trouver l'ordinateur central, en fait, qui va te faire une sorte de mini-boss qui ressemble à un cerveau avec un œil. Basiquement, ça ressemble à ça. Et une fois que tu l'as tué, eh ben en fait, ça va permettre de charger ton canon et d'avoir le canon Oméga. Et le canon Oméga, il fonctionne de façon en deux parties. D'abord, il va falloir, avec le canon Oméga qui va envoyer en fait des pulsations très rapides, comme une mitrailleuse, il va falloir cramer la tête de l'ennemi.
D'accord.
Le blindage
de bouclier, ouais.
Une fois que tu l'as fait sauter, il faut charger le canon. Et pour charger un canon, il faut 3-4 secondes.
Ouais.
Et relâcher en tirant sur la tête. La partie que t'as fait sauter le blindage.
D'accord.
Et si t'as fait ces deux étapes, c'est bon, il est mort. Et tu récupères un pouvoir, donc c'est cool.
Ouais.
Mais. C'est là que ça devient un peu drôle. Déjà, quand tu as buté l'ordinateur central, eh ben en fait, l'ennemi, il te traque. C'est-à-dire, normalement, il y a trois phases. Il y a la phase où il est en train de faire la ronde, phase bleue. Phase jaune, il a entendu du bruit, parce qu'il fonctionne comme ça.
Et il entend très loin.
Et il entend très très loin. Et là, dans ce cas-là, tu vas avoir un sorte de faisceau qui indique il voit par là. D'ailleurs, il y a un ennemi qui voit à travers les murs, je te le dis. Alors lui, c'est une horreur. Oh, et il y en a un autre, en fait, où toute la carte est cartographiée.
D'accord.
Donc en fait, si tu bouges, ça passe en jaune tout de suite. C'est génial. Ah, c'est un cauchemar. Puis t'as des zones de flotte où t'avances ultra lentement. Enfin, c'est parfait. Mais ça marche, je dis, parce qu'en termes de tension, ça marche.
Ah ouais, ouais.
Et donc, le truc, c'est qu'en fait, pour y arriver, il faut que le chemin il soit dégagé. Parce qu'en fait, quand tu commences à tirer dessus, ça le ralentit. Donc, ouais. Ça c'est pas mal, mais il faut du temps hein, quand même pour faire sauter le blindage et tout. Et donc il faut une grande zone, et parfois c'est un vrai casse-tête pour trouver la zone adaptée pour faire le combat correctement. Sachant que si tu te plantes, que t'as réussi à abîmer le blindage, mais pas entièrement, le blindage s'auto-régénère, et faut recommencer.
Ouais, faut l'avoir du premier coup.
Ah ouais, faut le faire du premier coup. Une fois que t'as fait sauter le blindage, c'est bon, il reparaîtra plus, et après tu peux le faire sauter pour de bon. Mais voilà, et en fait c'est un mini-jeu dans le jeu en fait, de trouver la bonne zone en toute sécurité, et il faut bien tirer, parce qu'en fait il va falloir quand même viser, sachant que le truc, en gros quand tu tires dessus et que tu touches la tête, ça le ralentit, mais si jamais en bougeant ton viseur, tu te plantes et ça passe un peu au-dessus, un peu en dessous et que ça touche plus la tête, là il reprend sa vitesse normale. Hein. Puis alors là, je peux te dire qu'il court le gamin, hein, donc il n'y a pas de problème. Ouais. Hein. Donc voilà, le jeu est construit comme ça, c'est sa petite subtilité. Et effectivement, il est beaucoup plus dur que les anciens, parce que pour avoir fini Super Metroid et Metroid, les jeux étaient durs, mais durs pour des... enfin, par rapport au support, parce que par rapport à l'âge du truc. Mais pas non plus si dur que ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, une fois que t'as pris le coup de main, ça va. Metroid, Dread... Waouh, lui c'est l'école Breath of the Wild Dark Souls, hein. Tu fais moi j'ai pas envie d'être gentil spécialement avec toi, d'autant que le système de vie dans le jeu est construit avec un système de capsules de vie. T'as 99 points de vie par capsule. Et en fait, moi je me disais au début, bah en fait t'as de plus en plus de capsules, donc t'as de plus en plus de réceptacles, et donc en gros tu passes de 99 à, moi j'ai fini le jeu avec 800 points de vie je crois à peu près. Ouais, mais t'as des coups qui te virent 100 points de vie. Au début, tu perds 10 points de vie, 15 points de vie par coup. À la fin, tu prends un coup, 150 points, tu fais...
Ah, ça fait mal,
la vache. Donc, le jeu peut s'avérer assez méchant. Ouais. Et en fait, quelques erreurs, fini.
C'est fini, ouais.
Et à part les ennemis, il y a tout un tas de créatures aussi ennemies qui sont assez variées quand même. À chaque fois que tu arrives dans un niveau différent, tu découvres des nouveaux ennemis qui sont assez badass de plus en plus, hein, que ce soit des robots, des créatures, des machins. T'es là tout d'un coup, tu vois un truc qui bouge, tu sais même pas que ça allait être un ennemi, et puis il te tire dessus, il te défonce la moitié de ta vie, t'es là, Ah ouais.
Ah ouais, la faune t'en veut, hein. Vraiment, ah ouais, t'as pas d'amis, ça, hein,
ouais,
ici. Hein.
Ah non, non, c'est assez dingue, ouais.
Donc, pour conclure, parce que le temps tourne, malheureusement, est-ce que sur 20, c'est possible de donner une note, ou sur 10, ou sur 100, comme tu préfères?
Écoute, moi, je lui mets 16. Je trouve qu'il est très bon. Vraiment, il est très bon. Mais il a quand même, pour moi, deux gros défauts. Déjà, je trouve que sa jouabilité est assez particulière. Pour moi, c'est un jeu qui est plutôt crispant. Il y a beaucoup de touches et beaucoup de combos de touches en fait, à faire. C'est-à-dire, en fait, pour activer ton grappin, c'est un bouton en plus, puis après tirer. Si tu veux activer les missiles, en fait, c'est un bouton, puis après tirer. Si tu veux activer les missiles et en même temps guider, c'est-à-dire définir où tu vas tirer avec un faisceau, c'est deux boutons, puis le tir. Et en fait, ça fait beaucoup de boutons en même temps. Et il y a des séquences où, en fait, il faut faire très, très vite tout en même temps. Et c'est très vite crispant. Alors, c'est même presque douloureux en fait, parce que tu te crispes au niveau des doigts. Hein. Donc, et même à la fin du jeu, moi, il y avait encore des moments où je me plantais dans mes touches, genre entre mettre en morphing, faire une glissade et tout. Donc, ça, c'est ce qui me gêne le plus. Ensuite, il y a aussi le fait que je trouve que tu sens que le jeu a quand même été rushé d'une certaine façon. Ouais. Je pense notamment les scènes de mort, quand tu meurs en tant que Samus face aux ennemis. En fait, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire le truc te met une sorte d'aiguille. Game over. Enfin, c'est un peu subit, et je trouve que le jeu se sent beaucoup dans sa façon de raconter son scénario. Il y a aussi un peu ça. Alors ça peut être une volonté, mais je trouve que je sais pas. Il y a un côté un peu genre
on en fait vite. Il manque un petit truc dans le scénar, parce que je trouve que ça prend Nintendo prend pas en compte le fait que depuis il y a plein de jeux indés qui reprennent le principe de comme Action Verge, etc. Où il y a un scénario qui est souvent quand même vachement développé, une atmosphère, etc. Et il y a de la concurrence en fait sur Metroid maintenant. C'est plus
Alors après, il reste. Alors
c'est génial, ouais. Moi,
ça reste solide,
je le surkiffe. Mais...
Mais c'est pas.
Mais c'est vrai qu'il y a de la concurrence en fait en face chez les indés, qui est pas dégueu. Quoi.
Il n'est pas forcément noob friendly, quoi. C'est-à-dire que si tu connais pas la franchise, il faut s'accrocher un peu, quoi.
Alors ouais, clairement, c'est pas avec lui que tu vas comprendre l'histoire, même s'il y a un petit récapitulatif au début, mais c'est tendu quand même. Ouais. Et la difficulté, faut la sentir. D'autant plus que le jeu te fait un crachat suprême. C'est j'ai fini le jeu donc aujourd'hui, j'ai battu le boss de fin. Le boss de fin, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar absolu. C'est-à-dire, c'est un die and retry, hein, d'une certaine façon, hein, pour les boss. Mais qui est plutôt bien foutu dans le sens où, genre, en fait, quand tu perds, tu reviens dans la salle juste avant.
Ouais.
Sauf pour le boss de fin où il décide de te faire revenir avant, où t'as un ascenseur, puis une cinématique. Genre, pas du tout chiant, quoi, en fait. Ouais. Donc, tu tapes une séquence supplémentaire de chargement. Enfin, bref. Et le boss de fin, tu refais plusieurs fois parce que vraiment, tu galères.
Et tu galères pour déjà comprendre comment le.
Donc, ouais. Enfin. Il y a des chances que tu rages. Et le jeu, en plus, te crache à la fin en te disant « mode difficile débloqué ». Et là, maintenant, je fais « Ah, les enfoirés, c'était énorme !» Donc, ouais, j'ai fait bon. Mais franchement, si t'enlèves le côté un peu rushé dans le scénar, et même dans la réalisation, à certains points, même si le jeu est très joli, et fluide, et propre, que t'enlèves certaines pics de difficulté un peu étranges parfois, même si le jeu, finalement, te fait comprendre qu'on est dans un style Dark Souls, et donc, si t'as du skills, tu vas t'en sortir. C'est juste qu'il va falloir répéter les choses et que la fin, c'est peut-être nous en fait. Hein, la fin, en vrai. Si tu acceptes ça, par contre, c'est un jeu qui marche du tonnerre. Vraiment, de bout en bout, ça marche.
Bah, merci messieurs.
Donc, ouais, moi, c'est sûr, je sais pas ce que t'aurais dit toi, mais.
C'est juste peut-être la musique et l'ambiance sonore qui aurait pu être un peu plus développée que ça aussi. Parfois, je trouve ça un peu léger en fait.
Il y a les phases de tension qui marchent bien avec les ennemis, mais par exemple la musique, effectivement, genre la musique de Metroid Prime, j'en souviens encore. La musique d'entrée de Metroid Prime, j'en souviens encore. Là, je suis pas sûr que c'est la musique en fait.
Non,
Manque un peu cet accompagnement musical.
Mais sinon, non, clairement, par contre, il a à faire. Enfin,
c'est vraiment indispensable.
C'est enfin pour un truc qui sort des enfers du développement, c'est quand même un miracle à ce niveau-là.
Ouais.
Game design est génial.
Ah oh ouais, putain, les mecs qui ont travaillé là-dessus, mais...
Ouais, c'est des furieux.
Là, vraiment, il y a des trucs à étudier pour comprendre comment on fait un game design intelligent sans prendre par la main le joueur.
Ouais.
Ah oui. Il y a des vraies choses super intelligentes. Donc,
c'est bien réfléchi. Quoi.
Ouais, franchement, ouais.
Bah, merci, messieurs. On va passer immédiatement au DLC avec l'info la plus incroyable de la Terre.
C'est l'heure du DLC.
Alors dans ce DLC, je vais vous parler aujourd'hui d'une ancienne société française de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo, fondée à Villeurbanne, donc du côté de Lyon, en 1983 par Bruno Bonnel et Christophe Sapé, Infogrames. Alors, premier choc, Infogrames a failli ne pas s'appeler Infogrames. Hein. Est-ce que, messieurs, vous savez quel était le nom qui a été pressenti au départ?
Oh la vache.
Ordigrames.
Ordigrames.
Ludogrames.
Eh ben, pas du tout. Les fondateurs voulaient baptiser la société Zboob System.
Zboob System, mais sérieux.
Mais ils ont été dissuadés.
Putain.
Et donc ils ont choisi dans une interview Verge, merci. Le nom de la société avait été créé en associant deux mots, informatique d'un côté et programme de l'autre, en enlevant un M à programme, donc c'est-à-dire qu'en plus il est pas bon en. Donc ça c'est sa version, et Christophe Sapé lui il a dit non, moi j'ai fait un programme pour générer un nom de société au hasard et c'est tombé sur Infogrames. Donc en fait personne ne sait d'où ça sort, mais ça c'est pas la faute la plus incroyable du monde. Donc de 83 à 89, Infogrames a développé plus de 75 jeux sur des machines aussi diverses que des ordinateurs Thomson, Amstrad, Atari ST, MSX et même sur Minitel. Les jeux Minitel, ce qui est quand même assez.
Des consoles que Charles, même Charles, n'a pas forcément connues.
C'est vrai.
C'est vrai. Moi, j'ai connu l'Amstrad. Hein.
Avec sa pub raciste.
Avec les cassettes vidéo. Les cassettes audio. Avec le studio espagnol Beat Managers. Il commence les adaptations des BD franco-belges.
Attends, tu veux dire que Zboob Studio, Zboob Studio aurait pu ça. Ça... T'es les meilleurs là.
Là, je crois qu'il rentre dans l'histoire absolue. Donc les bandes dessinées franco-belges, donc Spirou, Schtroumpf, Tintin, Astérix, North and South, qui étaient inspirés des tuniques bleues.
Ouais.
Ils n'avaient pas eu la licence des tuniques bleues, mais ils avaient appelé ça North and South.
Mais c'est bizarre parce que c'est pas sous licence.
J'ai pas vu que. S'ils disent inspiré, ça sous-entend qu'ils n'avaient pas du tout la licence.
Je dis ça parce qu'en fait, pour le coup, j'y ai joué, moi, en plus, sur.
North and South.
Sur. Je sais plus quelle console. C'est peut-être une. Sur disquette à l'époque.
Ouais.
Et dedans, en fait, t'avais les personnages. Mon père collectionne les tuniques bleues, donc c'est pour ça que je connais la BD. Et dedans, t'avais les personnages. T'avais Cornelius, t'avais Bludge, t'avais Cancrela aussi. Enfin, t'avais les vrais personnages
les vrais
de la
personnages.
BD. Donc,
Pourtant, ils n'avaient pas réussi à avoir le nom, quoi. Tu vois, ou soit ils ont fait la version anglaise. Ils ont mis un nom anglais, mais
bon,
tu me diras, ils ont bien fait Asterix et The Great Rescue, qui n'existe pas du tout en BD. Et également Bobo, un jeu, une BD franco-belge. Donc ce que les enfants lisaient, ben maintenant ils pouvaient y jouer. C'était pratique. Donc qui n'a pas crisé sur les Astérix ou les Schtroumpfs ou Tintin au Tibet, entre autres. Car oui, autant les jeux Infogrames étaient magnifiques graphiquement.
Oui.
Ouais, franchement, ça reprenait l'idée de la BD, le style. Par contre, c'était fait par des terroristes, les mecs.
En interne, et en gros, bah, les développeurs, ils testaient leur jeu, sauf qu'à force de tester, bah, en fait,
ils connaissaient les
trucs, donc c'était facile. Puis après, tu testais le truc, tu fais, mais moi, j'ai pas leur expérience, j'ai pas 120 heures de jeu, quoi. Donc,
Et il faut se remettre aussi à cette époque, c'est que, on avait quoi? Un ou deux jeux par an?
Ouais.
Et les parents, ils se basaient sur quoi? Sur ce qu'ils connaissaient. Donc, tu te retrouvais forcément avec un jeu Infogrames à un moment dans ta vie, quoi.
Ah, mais franchement, moi, tu me mettais Tintin au Tibet, tu mettais Push It to the Limit en fond sonore. Je peux te dire, ça, c'était parfait, hein. 4 ans de Push It to the Limit. C'est un peu.
De droit avec les jeux Looney Tunes qui étaient excessivement durs et excessivement pénibles, pour rester poli. Genre Roadrunner.
Ah oui, ah, oui. D'accord, oui.
Que okay. Tu m'as...
Ah
d'autres thèmes. Ainsi, la série Survival Horror Alone in the Dark arrive en 92.
Ah, ouais. Ils ont complètement baisé Frédéric Reynal. C'est une honte. C'est une honte.
Et après, une fois. C'était dans la mouvance des Tony Hawk et tout ça. C'était la mode à l'époque.
Bah, écoute, si personne ne s'en souvient, c'est que c'est...
C'est ça.
Ça avait son succès. Hein.
Ouais.
C'était un jeu de rallye entre gros guillemets.
Si tu voulais un truc un peu sérieux, tu jouais à Colin McRae à l'époque.
Bah, hein. Justement, ça t'est enterré. Les joueurs aussi maniables qu'un peu être lié échoué. C'est vraiment pour te dire.
Ah, ça vend du rêve, là, j'ai envie d'essayer.
Mission Impossible.
Mission Impossible,
qui était
ouais.
Exactement.
Impossible, c'était très très dur. Si t'étais en impossible, tu le filais au mec que t'aimais pas.
C'est ça. Et il y a un jeu moins connu qui a été sorti, moi j'y ai joué pendant des heures, c'était le jeu 24 heures du Mans. Et quand je dis des heures, j'ai même fait la course pendant 24 heures. C'est pas
tout, j'ai fait la pote.
C'était sorti sur PS1, sur PC et sur PS2 et même sur Dreamcast à l'époque. Ah. Parce que Dreamcast était encore de ce monde. Et pour moi, c'est un des jeux qui m'a procuré de plus de bons souvenirs avec Gran Turismo, Formula One et la série des Toka. Sur PS1, hein. pas après Autocar Race Driver, non, ça n'existe plus.
Ah, j'ai des potes qui défendent cette série, tu vois.
Ah bah oui, bah après, chacun est libre. Ah, ouais. Moi, j'accepte.
Après, j'ai des potes qui ont des mauvais goûts aussi. Hein.
Pour revenir à Infogrames, bah, la période des années 90, c'est la période de la boulimie. Ils rachètent plein de studios en faillite à l'appel. Mais par contre, les jeux, bah, eux, ils ont tendance à baisser. Hein. La vente de jeux, bah, il y en a de moins en moins. Et il y a eu des choix plutôt douteux, on va dire, comme par exemple Paris-Marseille Racing, fait en collaboration avec David Aix.
Sérieux, ils ont bossé avec.
Ils ont bossé avec David Aix. Donc c'est... Là, tu sens que c'est... Là, voilà, il commençait déjà à se dire... Ouais.
Ah, la fuite des cerveaux, là.
Par contre, on peut noter dans les années 90 l'excellent Jeff Crammond's Grand Prix 4 sur PC, qui reste encore aujourd'hui un des meilleurs jeux de Formule 1 sur PC. Et il y a énormément de modes qui ont été faits. C'est toute une communauté. C'est assez incroyable ce qu'ils font. Okay. Et vous pouvez le trouver en abandonware. Donc ça, c'est encore mieux. Okay. Pour un bon petit jeu. Résultat des courses, bah, une dette qui atteint 580 millions d'euros en 2002. Ce qui ferait rire le Barça. Hein, avec ses deux fois. Peut passer de 5160 euros. En 2000 à 80 centimes d'euros hein, en 2012. En 2003, Infogrames est obligé de s'associer avec Atari pour essayer d'enrayer les pertes, mais la fin semble se profiler. En 2006, un plan de recapitalisation est voté afin de réduire la dette. Tu m'étonnes, hein, ce truc-là, ouais. Le banquier va commencer à râler un peu. En 2007, Bruno Bonnel se fait virer du poste de...
Bonhomme, aujourd'hui il est bien. En
tant que... Ah ben, c'est la fin d'une époque. Infogrames disparaît, se retrouve finalement intégré à Atari SA, qui depuis essaye d'éponger les dettes d'Atari d'Infogrames. Donc c'est pour ça qu'on a des jeux assez grandioses du côté d'Atari. C'est que pour faire du blé. Hein.
Atari, je vous rappelle, c'est les mecs qui nous ont dit Driver 3, hein, quand même. Hein.
C'est
Driver 3, rappelez-vous de ce jeu. Hein. Wow.
Alors, vous allez me dire, la super info, c'était quoi? Ben, en fait, j'ai répondu à quasiment tout, sauf à une seule question, et c'est la question existentielle. Pourquoi un tatou comme logo? Alors, l'explication est très simple. Bruno Bonnel déclarera à la télévision, ce dinosaure est notre symbole, car le tatou a toujours survécu au changement de son environnement, de la fonte des glaces aux pierres des canicules. Nous voulons pareillement être là dans des millions d'années. Alors, alors déjà, quand on regarde ses 20 ans d'existence, quel héritage il laisse à la postérité, celui des jeux franco-belges, basés sur des BD franco-belges, qui, malgré leurs difficultés, restent comme une Madeleine de Proust pour ceux qui les ont connus. Parce que dans le fond, on les regrette. On se dit, oh, qu'est-ce qu'on en a bavé, mais qu'est-ce qu'on les a aimés, ces jeux-là, finalement.
C'est vrai.
Donc, adieu, petit atou. Tu étais trop gourmand pour ce monde. Et Antoine.
De souffrance, des jeux à licence, vous vous en souviendrez pour toujours. Ces jeux merdes dévoreront vos âmes. Infogrames. Ces jeux merdes dévoreront nos âmes. Infogrames.
Donc voilà, adieu petit tatou.
Il aurait mieux fait d'être un dinosaure.
Au moment où on aura fait du pétrole à la fin.
Donc on va passer au quiz, parce qu'il faut qu'on se fasse massacrer.
Allez,
Charles et moi.
Allez.
Et avec le générique spécial que tu m'avais demandé.
D'abord on commence par le générique standard.
Ah, tu veux le
générique... D'abord le générique standard, s'il vous plaît.
Ah bah alors, attends deux secondes alors. Générique standard que voici. Ah non, c'était pas celle-là.
C'est pas celle-là. C'est pour la question,
ça. Dans la professionnalisme absolu.
Non, c'était beaucoup de trucs pour ça.
Ouais, c'est surtout ça. Voilà, c'est là.
Voilà.
Voilà.
Alors, j'ai attendu 7 jours pour ça.
7
jours. J'ai dû aller calmer mes nerfs au cinéma pour essayer de supporter.
Et sur Metroid.
J'ai éclaté Metroid également sur le chemin. Et donc, du coup, nouveau quiz. Aujourd'hui, c'est moi qui va m'occuper du quiz. On va faire un quiz un peu spécial dans le sens où il y a. Deux joueurs, il y aura 8 questions, mais vous avez chacun vos questions, messieurs.
Ouais.
Il n'y a pas de.
D'accord.
Vous choisissez pas de numéro. Je me suis dit, écoute, il est temps de changer les règles. Je vais prendre les mêmes règles que Charles, que Philippe, mais contre,
avec un twist.
Par contre, je vais le pourrir. Voilà. Donc.
Par contre, tu me feras des gestes pour que je mette bonne réponse ou mauvaise réponse, hein, parce que tu peux pas faire.
Alors, regarde, je vais faire comme chez les Romains. Pouce vers le haut, pouce vers le bas, d'accord. Et je pointerai la personne pour que tu mettes le bon jingle, ok. Donc, si c'est pour Philippe, il y a un jingle spécial. C'est pour Charles, c'est moi qui fais le jingle.
Ouais.
Alors, vous voulez commencer par qui? Qui veut commencer?
Oh, bah. Honneur au perdant.
Bah, techniquement, le perdant, c'était Charles.
Hein. Ouais. Allez, ouais. Moi, je commence, allez.
Ouais, c'est Charles, le meilleur. Meilleur d'entre nous.
Charles, Tony, chiffre de 1 à 4.
4.
Charles, lequel de ces jeux ne faisait pas partie du line-up Sony de la PS2 en Europe? Réponse numéro 1, Fantavision. Réponse numéro 2, Timesplitter. Réponse numéro 3, Street Fighter X3.
Je dirais un des deux derniers. Et je dirais Street Fighter.
Est-ce que c'est ton dernier mot?
Ouais, allez. Et yes.
Ouais, j'ai changé aussi le son.
Oui, le besoin de moi aussi.
C'est forcément le jeu que tout le monde attendait.
Et, effectivement, il faut savoir que Street Fighter X3 est sorti au line-up japonais, mais pas en France, me demandez pas pourquoi. Mm. Par contre, Fantavision, si vous ne savez pas ce que c'est normal, c'est un jeu de feu d'artifice. Et ça faisait partie du line-up, hein, je vous rappelle. Et Timesplitter est sorti au line-up, voilà. Alors le Timesplitter, il est intéressant uniquement pour une chose, c'est qu'il va aboutir à Timesplitter 2, qui est un jeu absolument légendaire encore aujourd'hui. Jingle.
Je sais où tu le caches.
Philippe, 1-4.
1.
Philippe.
Oui.
Dans Resident Evil 2.
Oui.
À quel célèbre film fait allusion le pistolet de Léon? Réponse 1. Léon, tout simplement, de Luc Besson. Réponse 2. Yojimbo, d'Akira Kurosawa. Réponse 3. La nuit des morts vivants, de Georges Romero.
Alors, on sait que c'est inspiré, enfin, la série est inspirée des Georges Romero. D'ailleurs, le film aurait dû être fait par Georges Romero. Malheureusement, il est mort avant.
Ah non, le premier, il est pas mort avant, hein. Il est mort après. Hein. Le dernier film de Romero, c'est 2006-2007.
Ah, hein. Ouais. Donc, alors, c'est le 2.
Non, c'est qu'il a fait la pub, par contre, pour Resident Evil 2.
D'accord.
C'est tout ce qu'il a fait. Et ça aurait été mieux que ce soit lui qui aurait fait le film. Clairement, le résultat du premier. Je te redonne des réponses.
Moi, je vais dire Léon.
Est-ce que c'est ton dernier mot?
C'est mon dernier mot.
Alors, j'aurais dit ça aussi. Hein.
Explication. Le pistolet de Léon,
yes.
Le VP-70 de Heckler et Koch, porte comme petit nom Mathilda. Ah, Mathilda, bah oui. Comme Nathalie Portman dans Léon. Et d'ailleurs, le nom, on le retrouve encore dans Resident Evil 4 pour une des armes qui s'appelle le Mathilda.
Le
aussi.
Mathilda. Et d'ailleurs, petite info, il va bientôt sortir en VR.
Oui, allez, alors là, mais c'est Day One.
Exclu, Oculus Quest.
Me t'inquiète pas, on pourrait jouer sur...
Ouais.
Mais oui, moi c'est Day One, hein, je me débrouille pour le jouer. Hein. Ah, c'est
ouais,
sûr, c'est 100%.
Obligé, ouais.
Charles, Tony. Question 1 à 4, tu n'as pas le droit à 1.
D'accord. Et bien 3.
3. Charles, Tony. En quelle année est sortie la Game Boy? En tout premier dans le monde.
D'accord.
1985 1987, 1989.
Eh bien, je dirais 87.
Est-ce que c'est ton dernier mot?
Ouais, allez. Eh merde.
85, non?
89, la Game Boy, et oui, et d'ailleurs, contrairement aux idées reçues, donc Gunpei Yokoi, qu'on définit comme le père de la Game Boy, en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Lui n'était pas convaincu par ce projet, et c'est un travail beaucoup plus en collaboration et beaucoup moins responsable, sous la responsabilité de Gunpei Yokoi, en réalité.
D'accord.
Mais c'est une autre histoire.
J'essaie moi de me baser sur Tetris. C'est, le truc au départ, c'était marqué, je crois, 1984. Je me suis dit, ah, t'as 85, et en fait, non.
Et non, 89, la Game Boy.
Et ouais. Julien nous dit, il n'était pas né, mais il connaissait la réponse.
Péteux, ouais. Ouais, les absents ont toujours raison, c'est bien connu. Hein.
Surtout devant Wikipédia, c'est facile. 2.
Alors, enfin, j'ai pas ton petit jingle.
Ah, bon, excuse-moi.
Ah. Je sais où tu te caches!
C'est pour te faire plaisir.
Dans MGS sur PS1, voilà. La version intégrale sortie uniquement au Japon ajoute une nouvelle arme pour Snake. Laquelle? Réponse 1. Un fusil à pompe qui one-shot presque tout. Réponse 2. Un MP5 silencieux qui remplace le FAMAS. Réponse 3. Une banane.
Connaissant Kojima, il pourrait être très con. Comme il aime beaucoup l'humour slapstick dans ses jeux. Alors le coup du shotgun, why not? Le MP5, je vois vraiment pas pourquoi tu changerais le FAMAS, quoi. Moi je dirais la banane, quoi. Histoire de gros slapstick à la con, quoi.
Est-ce que c'est ton dernier mot?
C'est mon dernier mot.
C'était le shotgun.
C'est le MP5 silencieux.
Ah ouais, c'est MP5
ouais, et en fait, c'était juste parce que ça permettait d'avoir un truc d'assaut silencieux qui tire comme le FAMAS, mais sans faire de bruit.
D'accord.
Voilà, basiquement ça. Mais par contre, la banane a vraiment existé. C'était pour Metal Gear Peace Walker, où tu as des petits défis où tu dois braquer les gens avec une banane. Mais il faut les faire de dos, forcément, parce que de face, ils vont se rendre compte de la connerie.
Donc, il est très bien, d'ailleurs, Peace Walker.
Et il est très, très bien.
Charles, Tony,
question 1 à 4, tu n'as pas le droit à 1 et 3.
Et ben, 2.
Ah, 3 et 4, pardon, excuse-moi. Nous en parlions à l'instant, mon bon Charles.
Sur combien de supports est sorti RE4, VR inclus?
VR inclus. Alors.
Réponse 1, 9. Réponse 2, 11. Réponse 3, 13. Petite information supplémentaire, on se fout de la gueule de Skyrim. RE4 est un très bon exemple de. C'est peut-être pas les seuls qui ont fait ça.
Ouais. Donc, il y a eu la GameCube. Sorti sur Wii aussi. Ça finit par sortir sur PC. RE4. C'est combien les chiffres déjà?
9, 11 ou 13.
9, 11 ou 13. Il est sorti sur pas mal de trucs. Ouais, je dirais 9 pour pas mettre trop.
Moi, je dirais 11, quoi.
Dernier mot?
Ouais, 9, ouais. Ah merde!
Et non, il est sorti sur 13 supports. On va les noter juste pour le plaisir. GameCube, PS2, Windows, Wii, iOS, PlayStation 3, Xbox 360,
ouais.
Wii U, PlayStation 4 et Xbox One, Switch et aussi, petit cadeau supplémentaire,
c'est vrai, Switch.
La Zibo, qui est une console brésilienne.
D'accord.
Et naturellement, je vous le précise, est sortie aussi sur PS5 et Xbox Series X, parce qu'après tout, il y a du pognon à faire. On va pas se cacher. Et enfin, Oculus.
Et ouais.
Et oui, Oculus Rift.
C'est vrai, ça va très vite
non,
en fait.
Oculus Quest.
Quest, le Quest 1 et 2.
1 et 2, ouais. 4, histoire de brouiller les pistes.
Mon jingle!
Philippe,
ah.
Je sais où tu te caches.
Dans MGS 2,
oui.
Lequel de ces personnages du premier épisode, donc Metal Gear Solid, peut-on retrouver en vrai? Réponse numéro 1, Johnny Sasaki. Réponse numéro 2, Decoy Octopus. Réponse numéro 3, Vulcan Raven.
Dans le 2.
Dans Metal Gear Solid 2,
Metal Gear Solid
lequel 2. De ces personnages du premier épisode peut-on retrouver en vrai?
Vulcan Raven, ça m'étonnerait.
Johnny Sasaki.
Johnny Sasaki, c'est le garde dans le 1. Tu le retrouves de son fils dans le 4, qui est aussi nul d'ailleurs.
Decoy Octopus et Vulcan, ou Vulcan Raven.
Decoy Octopus, il me semble qu'il meurt avec le Fox Die. Oh, ça doit être Johnny Sasaki, quoi.
Est-ce que c'est ton dernier mot?
Ouais.
Ah, il a un point de plus que moi.
Ah, attention, ça commence à être serré. Eh ben oui, effectivement. Alors en fait, tu le vois pas physiquement, mais il existe vraiment dans le jeu. Quand tu as la scène où tu dois protéger Emma, la sœur de ta conne,
ouais.
En fait, il y a un moment où elle se retrouve derrière un de ses pylônes. Et si tu mets le microphone, eh ben en fait, tu peux l'entendre discuter avec Johnny Sasaki, qui est un garde qui la braque. Sauf qu'il commence à avoir une terrible envie d'aller aux toilettes. Et donc, du coup, tu as un échange très bizarre que tu peux écouter au microphone quand tu es avec Raiden à ce moment-là.
Et ce qui est super drôle, c'est que dans MGS 4, tu as le retour de... C'est le fils de Johnny Sasaki.
C'est lui.
C'est Johnny Sasaki,
encore une fois. Ouais.
Et il est tombé amoureux de
Meryl. De Meryl, et puis il se marie avec Meryl, d'ailleurs. Et puis, il termine...
Il a toujours le même problème dès qu'il voit Snake.
Tu le vois cul nu. La première fois que tu le vois cul nu. Il était en train de chier dans un tonneau. Voilà. On en est là.
Bon, Charles, Tony.
Écoute, il ne reste plus qu'une seule question et c'est la meilleure de toutes.
D'accord.
Lequel de ces jeux n'existe pas?
Ah.
Réponse numéro 1. Kuma Uta, on joue un manager d'un ours extraterrestre qui chante des chansons traditionnelles japonaises. Okay. Réponse 2. Ju Omota Kodomotachi, on joue des bébés qui se tirent dessus avec des pistolets d'airsoft. Réponse 3. Dans Panic Seaman, on nourrit un poisson avec une tête d'homme avec qui on peut parler avec le micro sur la manette.
Oh putain. Tous ces jeux pourraient exister. Les Japonais sont suffisamment fous pour les faire. Alors. De toute façon, je vais en dire un au hasard. Les bébés qui se tirent dessus. Le dernier est tellement débile que je suis sûr qu'il existe. Le premier, c'est quoi déjà?
Kuma Uta. On joue un manager d'un ours extraterrestre qui chante des chansons traditionnelles japonaises.
Moi, je dis celui-ci, ouais.
Tu paries sur la première réponse.
Ouais.
Est-ce que c'est ton dernier mot?
C'est mon dernier mot. Et merde. C'est les bébés. C'est les bébés, c'est ça?
C'est les bébés. J'ai totalement inventé. Mais il existe vraiment Kuma Uta. Il est sorti sur PS2. C'est un karaoké.
Et celui avec le poisson avec une tête humaine. J'ai vu il y a un mec sur YouTube, il avait fait une vidéo. C'est juste... à vomir. C'est bizarre.
Moi, je l'ai sur Dreamcast avec le micro et j'ai déjà joué la version anglaise.
C'est ultra bizarre. Quoi.
C'est très bizarre, ouais. Parce qu'en fait, le poisson, parfois, il te pose des questions. Tu fais, oh, c'est un peu chelou là, quand même. En fait. Enfin, genre, il me pose des questions où tu fais, c'est très existentiel. Mais ouais, pourquoi tu vis? Qu'est-ce qui fait que le matin, t'acceptes de te lever de ton lit?
Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est
moi, si j'ai besoin d'un psy, bien, bien, ça me coûte moins cher qu'un psy, mais.
Ouais, mais c'est le psy sous acide, quoi.
Ouais. Bon, alors là, il y a un truc, c'est qu'en fait, actuellement, Charles
est en train de perdre.
Est en train de perdre. Tu as un point, Charles, si je dis pas de bêtises. Philippe, tu as deux points.
Si j'ai mauvais, je vais forcément perdre un point.
Si tu as tort. Non, on inverse ça avec si tu te plantes, tu perds deux points et Charles gagne.
J'aime bien ces règles.
Bah, tu gagnes le droit de rejouer pour une prochaine fois.
Voilà.
Allez,
jingle.
Allez, règle pourrie.
Philippe, je sais où tu te caches.
Dans Resident Evil 2, quelle célèbre faute peut-on voir sur les banderoles prévues pour l'arrivée de Léon dans le commissariat? Réponse 1, Welcome Léon, welcome avec deux L. Réponse 2, Hello Lyon. au lieu de Léon, L-I-O-N. Réponse 3, Happy First Work Day Léon, qui en grammaire également anglais, c'est très très bizarre. Faute qui a été gardée dans le remake pour la petite histoire. Ils l'ont volontairement gardée en clin d'œil.
Allez, père. Père.
Le premier.
Tu dirais Welcome Léon deux avec L. deux L. Ouais. Est-ce que c'est ton dernier mot?
Oui, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Je connais pas la réponse. Donc,
Là, je vais te regarder comme dans Gladiator.
Il a gagné, j'aurais été sûr, j'aurais dit ça aussi. Et c'est une faute de frappe.
Oui, c'était une faute de frappe dans la version japonaise, enfin, la version, toutes les versions. Et en fait, ils l'ont gardé dans le remake où en fait, tu écris welcome correctement, mais si tu regardes, il y a un espace entre le L et le C. Et en regardant plus bas dans le bureau, tu vois le deuxième L qui est tombé. Parce que visiblement, les flics de Raccoon City ne savent pas écrire. Mais c'est une faute très commune, le welcome avec deux L. Hein, donc,
oui,
aux
Japon. D'ailleurs, ça oui. Et puis, deuxième truc, ça peut aussi sous-entendre well dans le sens ouais. bien, bon, être, et, aller bien. Et
je pense. Parce qu'effectivement, dans leur traduction, quoi. C'était pensé comme ça.
Ouais, je pense qu'il devait y avoir
bon, eh ben écoutez, j'en sors très déçu.
Bravo, Philippe.
Donc, je pense qu'on peut mettre la chanson. Hein,
Oui, bah.
Je sais où tu te caches.
C'est une victoire de Philippe, je ne pensais pas utiliser ces mots un jour.
Oui, bah moi non plus, ça n'est
pas possible. Parfois, on fait tout ce qu'on peut et ça ne suffit pas. Je saurais revenir avec un truc beaucoup plus violent où une bonne réponse de Charles, c'est 10 points, et une bonne réponse de Philippe, c'est 1 point.
Ça pourrait être également ça.
Et le quiz dure 4 heures.
Charles, il aura 10 questions, t'en auras une.
Mais si Charles se plante 10 fois et moi je me gagne une fois,
bah en fait il y aura égalité parce que techniquement il y a un point pour avoir essayé.
C'est ça, pour avoir écrit ton nom en haut de la feuille.
Bah merci beaucoup messieurs, on va se quitter là. On a légèrement dépassé. Très légèrement. On vous dit à la semaine prochaine. Encore ça, il faut que je vérifie sur le calendrier parce qu'il me semble qu'il va y avoir un enregistrement à cette heure-ci dans le studio. Donc faudra qu'on voit ça. Sinon, bah, on se retrouve dans la semaine prochaine ou dans 15 jours, ça, on verra bien. D'ici là, portez-vous bien, sortez couvert, profitez du beau temps, du froid et de vos consoles PC respectifs. Et d'ici là, au revoir messieurs, et merci pour ce quiz Tony.
Yes.
Il restera dans l'histoire aussi.
Une victoire de Philippe.
C'est peut-être la seule de l'année.
Hein. Allez, bonne soirée.
Allez, salut.